Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Nous allons débriefer le vote référendaire du 30 juillet dernier en République centrafricaine. L'appréciation du scrutin varie selon les camps du oui et du non. La direction nationale de la campagne référendaire pour le compte du pouvoir a salué l'engouement du peuple et a même avancé ce chiffre de 70% de réussite. Cependant, le bloc républicain pour la défense de la constitution du 30 mars 2016, BRDC, et une partie de la société civile parle d'un fiasco bourré de fraudes massives cautionnées par l'autorité nationale des élections ANE. Selon cette institution, la compilation des résultats et du taux de participation est en cours et elle dispose d'au moins 8 jours pour rendre public les résultats. Décryptage et analyse dans ce débat politique des actualités ayant marqué la semaine ici en République centrafricaine et aussi la situation au Niger. La CEDEAO a lancé un ultimatum à la junte de procéder rapidement au retour à l'ordre constitutionnel. Les chefs d'état-major de cette institution ont déjà défini un plan d'une éventuelle intervention militaire contre les putschistes qui contrôlent le pouvoir au Niger depuis plus d'une semaine. Et pour en parler, je reçois ici sur le plateau de Radio Nekeluka Monsieur Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine de droits de l'homme, LCDH, et ancien ministre de la Défense. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Maxime Balalo, bonjour.
Bonjour.
Ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et cadre du parti au pouvoir MCU, si vous venez de nous rejoindre, vous avez bien fait de choisir ce moment de Patara, le débat politique de Radio Nekeluka.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Nekeluka.
L'actualité oblige, hein, le putsch au Niger, la situation reste toujours confuse. Le président Mohamed Bazoum est toujours séquestré par la junte. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a infligé de lourdes sanctions contre le putschiste. Et pour le moment, selon le président Bazoum, le coup d'État n'est pas encore consommé. Il demande à cet effet à la communauté internationale de tout faire pour le rétablir dans ses fonctions au regard de ce qui se passe au Niger. Monsieur Balalou, quel constat faites-vous ou bien quelle est donc votre analyse, hein, de ce qui se passe au Niger?
Je pense que loin de faire l'apologie du coup d'État, vous savez, la situation au Niger, c'est une situation qui se passe en Afrique, fait l'objet de préoccupations de tous les États africains. Et comme vous le savez bien, la CEDEAO est bel et bien divisée sur la question. Vous savez bien que les autres États, membres de la CEDEAO, certains ne sont pas d'accord par rapport à la décision qui a été prise par la CEDEAO. Mais ce qui est important pour nous, je pense que en Afrique, beaucoup plus, nous devions travailler, dialoguer, travailler pour amener la paix, la concorde dans nos États. Et aussi, nous sommes dans une période avec la géostratégie qui bouge et puis la géopolitique au niveau mondial. Nous devons savoir que ce qui prime, c'est les intérêts de nos peuples. Et nous devons défendre les intérêts de nos peuples. C'est pour cette raison que nous sommes de cœur avec nos frères nigériens et nous souhaitons ardemment qu'une solution, n'est-ce pas, plus raisonnable, une solution politique puisse être trouvée au bénéfice des Nigériens. Seuls les Nigériens vont décider. Personne ne peut décider à la place des Nigériens. Eux seuls décideront l'avenir de leur pays.
Monsieur, merci. Je vous donne la parole sur la situation aussi au Niger, monsieur Bindoumi.
Effectivement, la Ligue centrafricaine a appris, comme tout le monde, que le 26 juillet dernier, il y a eu un putsch au Niger, ayant entraîné l'immobilisation à son service de M. Mohamed Bazoum et de groupes de militaires sont sortis pour dire qu'ils ont pris le pouvoir. Armand, je voudrais vous donner ici la position officielle des organisations non gouvernementales parmi lesquelles la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Les putschs, les coups d'État militaires comme mode d'acquisition du pouvoir de l'État sont des actes que nous, à notre niveau, nous n'acceptons pas. Nous pensons qu'il faut aller par la voie des urnes, par un processus démocratique, par des négociations ou inclusives pour chercher à trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans un pays. Mais prendre des armes pour aller renverser un président élu, nous, au niveau de notre organisation, nous pensons que ce n'est pas une bonne chose et ça ne grandit pas l'Afrique. Alors, je note que nous avons constaté que ces derniers temps, il y a beaucoup de coups d'État militaires qui se font, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, sous forme de coups d'État. Et on voit exhiber dans ces coups d'État les drapeaux français qui sont brûlés on chante du panafricanisme en disant qu'on s'est retiré de la colonisation et on applaudit parce qu'on s'est retiré de la colonisation. Mais d'une colonisation, on brandit le drapeau russe en disant que voilà, nous sommes sortis de notre ancienne épouse la France pour acquérir notre nouvelle épouse la Russie. Et sans oublier que ces deux puissances, ce sont des puissances qui ne viennent pas en Afrique pour nos beaux yeux, qui viennent aussi dans tous les cas pour leurs intérêts, pour leurs intérêts. Je voudrais noter que, et là maintenant je parle aussi fermement, que l'Afrique est en train de se ridiculiser. En train de se ridiculiser parce que si vous voyez, la traite des nègres, ce sont des puissances qui sont venues prendre les noirs pour partir avec. La colonisation, ce sont des puissances extérieures qui sont venues par leur force nous conquérir. Aujourd'hui, ce sont des Africains qui s'y jettent dans les bras du dominateur. Aujourd'hui, si c'est pas la France, on va se jeter dans les bras de la Russie, nouveau dominateur.
Et donc on quitte un maître pour un autre.
On quitte un maître pour aller vers un autre. Et même parfois, lorsque le maître n'a pas besoin de vous, je parle ici vraiment à haute voix, lorsque le maître n'a pas besoin de vous, vous vous jetez dans la mer pour traverser l'océan et mourir dans l'eau simplement pour aller chercher le nouveau dominateur. Et ça, c'est des choses que les psychologues, les sociologues doivent nous expliquer quel est ce phénomène-là.
Mais par exemple, la situation au Niger, quand on voit les manifestants hein, pro-djent aux affaires pour l'instant, hein, qui brandissent par exemple le drapeau russe, ça peut-être c'est une expression populaire qui se dégage dans ce nouveau, puisque ce n'est pas pour l'instant la djent qui se réclame de la Russie.
Mais pourquoi est-ce que l'Africain noir qui a été dominé par la traite arabe, la traite négrière, la colonisation, l'esclavage, en quoi, au lieu de brandir le drapeau nigérien, on vient brandir le drapeau russe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi, au niveau de la Ligue, nous ne comprenons pas. Et donc, nous pensons qu'à un moment donné, sous forme de panafricanisme, nous ne devons pas continuer de nous infantiliser, donner l'impression que je suis bien avec tel maître, je ne suis pas bien avec tel autre. C'est vraiment quelque chose qui ne grandit pas notre Afrique.
Oui, Monsieur Balalo, vous voulez réagir, je vois.
Je suis un peu stomaqué, parce que de l'analyse de Monsieur le ministre Benoumi, il y a quelque chose qu'il a dit qui me fait sursauter, parce que vous savez, plus de 60 ans que nous avons connus depuis que nous sommes affranchis, théoriquement, n'est-ce pas, hein, d'un certain nombre de contraintes dont on parle, la colonisation, nous n'avons jamais grandi. Monsieur Benoumi le sait très bien. En 2023, on peut plus tenir ce langage qu'il tient. Je pense que l'Afrique s'est réveillée. Il y a une affirmation de soi, une volonté de s'affranchir définitivement d'un certain nombre de pesanteurs. Et pour ça, on ne peut pas ici dénier le panafricanisme, donner, ridiculiser de la manière de parler. Je ne suis pas d'accord. L'Afrique s'est réveillée. Les pays africains ont compris. La jeunesse, et vous voyez, la jeunesse africaine a compris. La jeunesse africaine, grâce aux réseaux sociaux, de plus en plus se rend compte de son état. Et ces sentiments-là, c'est une expression populaire. Il faut changer de paradigme. Donc, je ne pense pas que la question doit être posée dans ce sens-là.
Mais déjà, lorsqu'on quitte la France pour la Russie,
vous posez un autre débat. Chacun le choix de choisir, n'est-ce pas, en termes de partenariat, n'est-ce pas. Et ce qui est plus important, ce sont les intérêts. Chaque État doit défendre ses intérêts. Comme on l'écoute quelque part, on dit on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts. On ne peut pas reprocher, n'est-ce pas, à des gens de défendre leurs intérêts. Je pense que le débat n'est pas là. Et je voulais juste
rebondir sur ce
point. Je ne veux pas qu'on essaie de dans le cas de l'analyse faite par M. Benoumi avec des sous-entendus pour lesquels je ne partage pas du tout, l'Afrique s'est réveillée et l'Afrique, comme la République centrafricaine, comme beaucoup de pays, nous n'accepterons plus ce type de domination-là. Nous défendons nos intérêts et je pense que ces réactions de plus en plus doivent amener tous nos dirigeants, n'est-ce pas, africains ou autres, de prendre les responsabilités et de penser d'abord à leur peuple, de travailler pour leur peuple, hein, pour l'essor de leur population.
Oui, M. Benoumi, mais en attendant ce qui se passe au Niger, la République centrafricaine a connu hein, des cas similaires, mais sous une autre forme. Déjà, 1966, vous le savez très bien, le coup d'état de Saint-Sylvestre avec Jean-Bédel Bokassa contre David Dacko. En 2003, le général François Bozizé avait renversé Ange-Félix Patassé. En 2013, Michel Ndoutodia a lui aussi déposé François Bozizé et le pays a failli connaître la même situation le 13 janvier 2021 avec l'avènement de la CPC. Avec cette situation en cours, le Niger ne risque-t-il pas de connaître des affres de cette crise comme c'est le cas actuel en Centrafrique?
Bon, je reviendrai sur, puisque nous sommes là à Radio Ndekeluka pour débattre de la question qui concerne effectivement la République centrafricaine. Nous sommes venus pour ça, le ministre est d'accord avec moi. Mais lorsque vous parlez, quand je parlais, là je retiens ma position en ce qui concerne notre panafricanisme qui donne l'impression de rejeter quelque chose et puis d'aller tomber dans un autre. Vous allez vous rendre compte, malheureusement, Armando, que ce panafricanisme primaire, je dis primaire, qu'on voit aujourd'hui, on ne le voit pas ailleurs. Je vous donne un exemple, le Maroc c'est un pays africain. Est-ce que vous voyez aujourd'hui le Maroc en train de dire « je ne veux pas la France, je veux la Russie ou je veux l'Amérique » parce qu'il cherche la souveraineté de son pays. Vous allez voir aujourd'hui un pays comme l'Afrique du Sud. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les contradictions qu'il y a à l'intérieur de l'Afrique du Sud, ils prennent un drapeau dans l'ancienne colonie, l'ancien dominateur de l'Afrique du Sud, pour dire « je le remplace par un autre dominateur de l'Afrique du Sud ». Vous allez voir aujourd'hui que les Africains anglophones de l'Est et autres n'ont pas le langage que nous avons aujourd'hui en Afrique francophone. Francophone, mais je dis noir. Noir parce que on donne l'impression que nous nous sommes débarrassés d'un colon, mais aujourd'hui il faut nous autoriser d'aller nous mettre sous la forme d'un colon, d'un autre colon. Je parle clairement de dire nous ne sommes plus avec des pays occidentaux, nous voulons être avec la Russie. Mais attends, nous devons être centrafricains, nigériens, mais en dégageant notre souveraineté, en disant aujourd'hui nous avons pris l'option de faire telle direction pour sortir notre pays de l'état dans lequel il se trouve. Mais nous ne faisons pas ça pour plaire à quelqu'un.
Mais le risque est actuel. Avec la même situation, mais plus ou moins similaire avec la situation centrafricaine, nous savons que la République centrafricaine patine parce que ce que le pays connaît comme l'insécurité, le problème de sécurité, ça a commencé il y a longtemps pour arriver aujourd'hui. Si le Niger ne fait pas attention avec ce qui se passe, est-ce qu'il ne va pas connaître la même situation que la République centrafricaine?
Mais le problème réel, c'est que est-ce que tous les pushts ont déjà eu un avenir meilleur quelque part dans le monde? Nous avons, vous avez cité l'exemple, lorsque un homme comme Bokassa a pris le pouvoir, tout le monde dit qu'il a travaillé pour le pays, mais il a eu tellement envie de pouvoir qu'il est parti en catastrophe. Vous allez me dire que Bozizé a fait un coup d'état militaire, et il a pris le pouvoir, et quand il l'a géré, il est parti en catastrophe. Vous allez me dire que Ndoutodia a pris le pouvoir par les armes. Tout le monde sait qu'il est parti du pouvoir en catastrophe. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est des coups d'état militaires dont nous parlons. Maintenant, aujourd'hui, les droits humains parlent de deux formes de coups d'état. Le coup d'état militaire et le coup d'état institutionnel. Peut-être que ce sera le cas sur lequel nous allons revenir tout à l'heure.
Oui, M. Bindoumé, sur les affres de ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique et puis le cas similaire au Niger, est-ce que le Niger ne court pas encore du risque par rapport à cette situation?
Vous savez que, contrairement à ce que le ministre Bindoumé pense, il oublie que le monde a changé, que l'Afrique a changé. De plus en plus une affirmation de soi. On sort de l'asservissement, on veut prendre nos responsabilités. On veut travailler pour le bénéfice de nos pays. On ne veut plus être dicté. On ne veut plus qu'on nous regarde d'en haut. Et ça, c'est cette vieille conception de la politique, du paternalisme que développe M. Bindoumé. C'est le maternage. Nous ne voulons plus de ça. Nous pensons qu'il est temps que nous, Centrafricains, nous regardions autrement et que nous devrions définir quelle est la voie qui nous semble être la meilleure, ce ne sont pas les autres. On a travaillé des années, on ne tire pas les leçons. Nous sommes en 2023, nous ne sommes pas dans les années 60. Et je tiens à rappeler, le ministre Bindoumé essaie de caricaturer un peu, sans justifier pourquoi on arrive au coup d'État, parfois. Mais je tiens à préciser que nous sommes dans un contexte où le monde, la géopolitique au niveau international, que la géostratégie, fait que les gens sont obligés de développer un partenariat gagnant-gagnant. S'ils se rendent compte que les intérêts de leur peuple ne sont pas pris en compte, c'est normal que les peuples prennent leurs responsabilités. Comment pouvez-vous comprendre? Vous avez vu l'exemple du Mali, hein? Vous avez vu l'exemple du Burkina Faso, ce qui se passe dans le Sahel, avec toute une armée au niveau international. Est-ce qu'on a pu résoudre le problème? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Si on fait une analyse profonde, on va se demander pourquoi on fait perpétuer, n'est-ce pas, cette guerre, hein, pourquoi on continue à nous déstabiliser. Et vous faites semblant de ne pas savoir, n'est-ce pas, qui sont ces mains invisibles qui sont derrière, qui font perpétuer. On a vu ces politiques-là qui nous ont coûté cher depuis la Libye, avec des choix inopportuns. On a vu les conséquences maintenant avec le développement du djihadisme. On en a vu. Et je crois que maintenant, et je le réaffirme avec force, que nos États, là où nous sommes maintenant, nous sommes déterminés à choisir une voie. Et cette voie-là doit prendre en compte les intérêts du peuple africain, les intérêts du peuple centrafricain, les intérêts du peuple nigérien. Et je le dis, je ne fais pas l'apologie du coup d'État. Comme l'a dit M. Binou, je suis d'accord avec lui, c'est pas bon le coup d'État. Il faut le dire, il faut respecter les institutions. Mais je tiens à le dire, je ne suis pas nigérien, ok? Si, à un moment donné, il y a une décision au niveau du Niger, les gens savent pourquoi ils ont pris la décision. Et ce que je prône, c'est le dialogue, hein, au niveau du Niger. Et je pense qu'on aboutira à un consensus. Notre pays, on a vécu. Vous avez vu ce qu'on a vécu dans notre pays. Nous ne pouvons plus continuer. Et là, le Centrafricain est debout. Le Centrafricain est déterminé à changer la manière de voir les choses. Nous sommes plus des passéistes. Nous sommes des activistes. Nous voulons que ce pays change à tous les niveaux. Et voilà cette responsabilité. Et le peuple nous donne raison maintenant.
Parlons de conséquences, hein, de la prise du pouvoir par la force. 13 civils, dont 3 notables du village d'Iki, situé à 140 kilomètres de la ville de Nélé, ont été tués lundi matin. Le gouvernement accuse des éléments de la CPC. Monsieur Balalou, selon vous, pourquoi ce massacre de Diki a eu lieu, hein, un jour après le vote référendaire?
Je vous remercie. J'ai un pincement dans le cœur quand je pense à ces pauvres villageois qui ont, avec force, par la voix des urnes, parlé. Ils ont voté oui. Voilà la réponse, la réaction. Barbare. Je posais la question tout à l'heure à M. Binoumi si la Ligue des droits de l'homme a condamné cet acte barbare. Personne n'a condamné. Même l'opposition n'a pas condamné. C'est inadmissible. Vous imaginez un peu
l'opposition,
comment...
L'opposition, le MLPC de Martin Ziguilé a répondu pour...
S'il vous plaît.
Vous demander de prendre vos responsabilités.
Je parle, hein, du BRDC. J'ai pas écouté le BRDC. Condamné officiellement. Et c'est pour vous dire que dans ce pays, la voie des armes ne prospérera jamais. C'est pas en mettant la pression sur les populations qu'on arrivera à ses fins. On faisait du mal à ce peuple. On n'y arrivera jamais. Ce peuple est debout. Je condamne avec la plus grande fermeté au nom du gouvernement cet acte ignoble qui témoigne cette bestialité des gens qui croient que demain, pour ce peuple-là, pour ce peuple retrouve cette véritable voie de développement, c'est de tuer, de faire souffrir. C'est inadmissible. Et cet événement donne raison à la population. On y revenait tout à l'heure. Je vous donnerai quelques chiffres pour montrer la détermination de ce peuple à se prendre en main, sa destinée en main.
Mais en vous écoutant, est-ce qu'il y a un lien entre le vote du dimanche 30 et le 31 et lundi plus tard, on a vu ce massacre de Diki?
Vous avez écouté, les analystes laissent entendre que les gens viennent du côté de Chari. Vous savez que ce qui se fait, c'est une réponse justement. C'est une réponse. Et je pense que nous allons prendre nos responsabilités. De toute façon, une enquête est ouverte. Nous allons prendre nos responsabilités pour défendre la population, pour préserver la sécurité de notre population, malgré le plan diabolique mis en place, pour faire souffrir ce peuple. Nous, en tant que gouvernement, sous la très haute impulsion du président public chef de l'État, nous ne nous laisserons pas faire. Et pour ça, je tiens à le réaffirmer. Je souhaite, et c'est le moment ou jamais, je souhaite que tous les acteurs politiques d'une même voix devraient se lever pour condamner avec véhémence. Malheureusement, je suis déçu. Et comme d'habitude, ce qui se passe dans ce pays, quand le peuple souffre, on n'écoute pas, mais on est sur des futilités.
Parlons des conséquences. Monsieur Bindemé, vous avez dit que cette situation relève de la responsabilité d'ailleurs du gouvernement et vous avez même parlé de son laxisme. Mais quant à ce qui concerne la question de la sécurité, la fois dernière, hein, vous avez condamné. Est-ce que de votre côté, vous avez quelques informations supplémentaires de ce qui s'est passé à Diki?
Non, j'ai écouté le, mon co-débatteur, le ministre Balalo, veut dire que la Ligue centrafricaine des droits de l'homme n'a pas condamné les atrocités de Dicky. Il a dit qu'il n'a pas entendu. Moi, j'aurais souhaité que Ndeke Luka relève, puisque Ndeke Luka non seulement a repris notre condamnation, les condoléances que nous avons présentées aux familles, Ndeke Luka a dans ses archives la position de la Ligue qui a demandé l'ouverture immédiate d'une enquête, si l'enquête elle est nationale, ou bien si l'État centrafricain n'a pas la possibilité de mener cette enquête, d'ouvrir une enquête internationale avec la participation des étrangers. C'est nous qui avons dit. Et c'est après nous que le ministre Djuri a pris la parole. Après nous, après la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Vous avez les archives.
Oui, allez-y.
Oui, vous avez les archives. Et donc c'est après nous que vous avez suivi. Et puis, parce que nous avons, dans notre déclaration, indiqué que la Ligue centrafricaine a constaté que le gouvernement n'a même pas encore dit, plusieurs jours après, qu'il y a eu un massacre à Dicky. La radio nationale n'en a même pas parlé. Et c'est quand nous sommes passés, effectivement, Dieu merci, le porte-parole du gouvernement a pris la parole, Dieu merci, l'État centrafricain a annoncé l'ouverture d'une enquête. Nous avons appris que le gouvernement, effectivement, a fini par réagir, que l'opposition, vous avez cité Tshikele, et autres membres de l'opposition ont réagi dans la même direction en condamnant l'acte et en demandant l'ouverture d'une enquête. Donc nous sommes unanimes pour rechercher les enquêtes. Alors, le gouvernement centrafricain a des problèmes. Le gouvernement centrafricain a des véritables problèmes. Parce que la notion actuelle du gouvernement centrafricain, c'est l'a priori. C'est l'a priori. C'est-à-dire, on se lève lorsqu'il y a un drame qui se produit. On dit, voilà, ça c'est les éléments du pays. C'est les éléments du pays. Et puis, c'est la CPC qui a posé l'acte. Et puis, voilà, nous condamnons ça avec rigueur. Pourquoi est-ce qu'on a ouvert une enquête? Permet de vous le dire, monsieur le ministre, on ouvre une enquête. L'enquête n'a pas encore commencé à prospérer, que vous désignez les coupables. Mais même les résultats de cette enquête nationale ne sembleront pas nous donner les résultats que nous attendons. Nous avons vu que, à l'occasion de la mort de Chinois, 9 Chinois, dans la Waka, nous avons condamné, nous avons désigné des coupables. Nous avons envoyé une enquête. Mais notre partenaire international n'a pas était convaincu par notre enquête parce que un de ses membres a survécu à l'attaque. Et les éléments que ce surmembre a donné à ce pays ami ne correspondent pas à ce que nous avons fait comme déclaration. Et la Ligue centrafricaine des droits de l'homme qui était sur le terrain, avec son comité préfectoral de la Ouaga, n'a pas les mêmes significations que le gouvernement. Et de toute façon, depuis, le gouvernement n'en parle plus. Et donc, aujourd'hui, nous avons reçu quoi? Nous avons reçu la CPC qui a sorti un communiqué qui est diffusé depuis hier pour dire qu'il accuse le gouvernement d'avoir perpétré et il donne comme élément que le gouvernement, dans la zone de ce qu'on appelle les Russes noirs et les Wagner, et puis que c'est eux qui ont procédé à cette opération. Maintenant, nous, on n'a pas désigné de coupable. Nous, on n'a pas désigné de coupable, mais on dit nous demandons une enquête. Et quand vous demandez une enquête et que vous savez que cette enquête peut être menée de mètre, vous attendez les résultats de l'enquête. Et à partir de ce moment-là, vous criez sur le coupable, vous demandez les sanctions qui s'imposent, vous demandez à la justice centrafricaine de s'appliquer concernant les faits.
Mais revenons sur la question de laxisme du gouvernement. Vous avez affirmé quant à ce qui concerne la sécurité dans le pays.
Non, mais moi j'avais dit clairement, ce que le ministre n'avait pas écouté, j'avais dit clairement que avant les élections, le gouvernement a fait une déclaration officielle pour dire que pendant le référendum, tout le territoire national serait sécurisé par nos forces armées et par les forces alliées à la République centrafricaine. Tout le monde était sur le terrain jusqu'au 30. Le lundi 31, les gens étaient en train de rassembler les unités de vote pour ramener les résultats à Bangui. Comment se fait-il que dans la nuit du 30 au 31 au 1er, il va y avoir les massacres. Et ces massacres, on dit par des éléments non identifiés. Mais alors qu'au moment du vote, la République centrafricaine a montré toute sa puissance militaire. Parce que, ce qui est interdit d'ailleurs pour une élection, on a décollé les hélicoptères pour survoler les bureaux de vote. C'est interdit dans le code électoral. On a soulevé les avions de chasse sur le territoire national qui ont sillonné dans le pays, sur les bureaux de vote. Mais attends, s'il y a un massacre de ce genre, à la rigueur, les mêmes hélicoptères auraient pressionné la zone pour dire nous avons
identifié
les traces de bourreaux qui se sont trouvés à tel endroit. Et puis avec nos avions de chasse, nous les avons rattrapés, nous en avons pris un certain nombre, et puis que nous connaissons. Et à partir de ce moment-là, nous tous, autour de cette table, nous mettons la condamnation qui sera destinée aux bourreaux. Mais à la date d'aujourd'hui, nous sommes sur des éléments armés non identifiés.
On va écouter M. Balalou. Vous avez 6 minutes de plus sur M. Balalou. Vous reprenez la parole sur la question de la responsabilité du gouvernement. On parle de votre laxisme parce que le gouvernement a pris son temps pour sécuriser seulement le vote référendaire. Et après un jour, nous avons la situation de Diki avec 13 personnes tuées.
Je vous remercie. Je vais relever quelques incohérences dans l'analyse du président Bindoumou qui est à la fois porte-parole de la CPC et autres. Dans cette manière de raisonner.
Je vous prie sincèrement de retirer
entre
ça.
Entre guillemets.
Enlevez les guillemets parce que nous sommes venus ici.
Je vous le consens. Je voudrais juste vous dire que je remets vraiment la pendule à l'heure en vous rappelant, Monsieur Bindoumi, que l'opposition avait annoncé par tous les moyens, je dirais l'opposition radicale, et y compris la CPC, qui vont empêcher la tenue des élections, vous savez bien. Ils ont mis en place leur dispositif. Ils n'ont pas pu, pourquoi? Si on était laxiste, les élections n'auront pas lieu. Les élections ont eu lieu sur l'ensemble du territoire, à la satisfaction des populations et des observateurs internationaux. Ça veut dire que le gouvernement n'est pas laxiste. Vous savez que ce pays est vaste. Vous savez bien que ce pays est vaste. On n'a pas la possibilité de pouvoir contrôler chaque mètre carré. Ces gens qui sont venus, qui ont commis ces crimes, on ne peut pas dire que c'est le laxisme du gouvernement. C'est inadmissible. Parler comme ça, ce n'est pas responsable. Le gouvernement fait des efforts, et vous le savez bien, le gouvernement fait des efforts pour ramener la paix et la sécurité dans ce pays. C'est connu. C'est connu. Mais cet acte criminel planifié, puisque les gens n'ont pas pu empêcher le vote, tout le dispositif que eux ils ont mis en place, ils n'ont pas pu parce que, justement, les forces de l'ordre étaient sur le terrain. Ils n'ont pas pu. Mais ils ont profité, n'est-ce pas, pour trouver des couloirs, commettre des crimes qui ne resteront pas impunis. Je voulais dire à monsieur le ministre, pensez à ce pays, s'il vous plaît. Il faut arrêter de continuer par ce type d'arguments qui vous poussent loin de la population. Et cette population n'est plus insensible à ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes un gouvernement responsable. Du point de vue sécuritaire, nous faisons des efforts pour ramener la paix dans ce pays, ramener la quiétude au sein de la population, créer les conditions de la circulation des biens et des personnes dans ce pays-là. C'est reconnu, ces efforts sont encore insuffisants parce que la tâche, elle est importante et nous continuons à le faire sous, n'est-ce pas, la responsabilité du président public. Je tiens encore à vous le dire, la manière à laquelle vous pensez que ce pays-là va se développer, cette manière de penser-là, cette manière est rejetée par la population. Votre concept est rejeté par la population. Parce que vous pensez que la solution, ça sera la haine. La solution, ça sera la discorde. Ce n'est que comme ça qu'on peut arriver à discréditer le gouvernement et créer les conditions pour renverser ce gouvernement-là. C'est une peine perdue. Je le dis et je le redis encore. Nous avons besoin de la concertation. Nous avons besoin du dialogue. Nous avons besoin de la compréhension. Nous sommes tous des Centrafricains. Pensons à ce peuple qui souffre. Pensez d'abord à ce peuple que de penser à la politique, de la chaise que vous recherchez ardemment. Je crois que c'est important. Vous qui défendez les droits de l'homme, vous êtes un conseiller. Vous devez jouer un rôle éminemment positif. Quand on vous écoute, je le sens pas ce rôle éminemment positif que vous devez jouer pour apporter votre contribution au développement de ce pays. Et c'est pour cette raison que je le réaffirme ici au nom du gouvernement. On ne peut plus continuer à penser que c'est le gouvernement. C'est plus grave encore, quand vous avez fait allusion à la CPC tout à l'heure, le gouvernement va massacrer ses populations. C'est incroyable. Vous voyez ce que vous dites? Vous-même, en tant que président de la Ligue des droits de l'homme, vous pouvez pas dire des choses comme ça. Vous devez condamner parce que le gouvernement ne peut pas lui-même, n'est-ce pas, tuer sa population. Est-ce que c'est responsable? Vous voyez, ce sont des contre-vérités. Et c'est contre vérité que vous utilisez en pensant que la population va vous suivre. La population ne vous suivra jamais. Et c'est pour cette raison que je le dis, les choses ont changé dans ce pays.
On revient toujours sur la situation. On reste tranquille, tête posée, pour parler de la situation de Dicky. Mais d'abord, Dicky, vous savez, non, vous allez rebondir après, parce que M. Balalou, encore deux minutes de plus. Mais sur la situation de Dicky, parce que le village est un peu éloigné, mais on n'a pas de force de l'ordre et de sécurité dans ce village. C'est seulement à 25 km de Dicky où il y a un contingent de forces armées centrafricaines. Pourquoi ne pas installer, puisque le vote a eu lieu même dans le village?
Monsieur Armando, je vous ai dit tout à l'heure, vous connaissez bien la configuration de notre pays. Vous connaissez bien, même en termes d'effectifs, avec le soutien de nos forces alliées, avec le soutien de la MINUSCA, vous connaissez l'immensité du territoire. Ce sont les barbares. Ils savent comment ils interviennent. Et ils peuvent échapper à la vigilance, justement, de nos forces de défense et sécurité. Ça arrive comme une fois dans les pays les plus sécurisés. Hein, on a des attentats et autres. Ce que je voudrais vous dire, c'est l'acte. Il faut parler de l'acte. Le message politique.
L'acte est passé, hein? Ben on parle voilà. De la priorité, on parle de l'après cet assassinat de masse.
Nous y travaillons, ok. Je vous ai dit que les enquêtes sont ouvertes, nous y travaillons, nous avons des pistes, nous y travaillons. Les conclusions seront données et le gouvernement ne laissera pas passer ce qui s'est passé à Dicky. Nous n'allons pas laisser passer. Et ce que je demande, il faut que nous comprenions un peu comment conçoit le développement de ce pays-là. Parce que quand on parle de sécurité, c'est l'affaire de tous. Si vous comprenez, c'est la contribution de tous, de tous les acteurs. Opposition, majorité, c'est une contribution globale. Chacun doit apporter sa contribution à travers le dialogue.
Et c'est le gouvernement qui doit favoriser cette contribution.
Et le gouvernement le fait.
Exact, comme vous l'avez dit, on va voir, on écoute monsieur Bindoumi, hein, vous voulez rebondir avant qu'on puisse évoluer dans le débat sur ce que a dit monsieur Balalou tout à l'heure.
Je n'ai pas reconnu le ministre Balalou, je vous assure, je suis nettement surpris, je n'ai pas reconnu le ministre Balalou, je ne l'ai pas reconnu. J'ai fait des débats avec le ministre Balalou, exceptionnellement je ne le reconnais pas aujourd'hui. Parce que vous entendez le ministre Balalou, en quelques minutes que vous lui avez données, sortir de sa coquille, prétendre que la chaise que vous cherchez, la chaise politique, ou le pouvoir que Bindoumi à la Ligue centrafricaine des droits de l'homme cherche, le poste au gouvernement que Bindoumi cherche, monsieur le ministre. Est-ce que le débat entre nous peut vous permettre de d'aller insinuer que le débat que nous menons ou les propos que nous tenons, c'est pour que le président Dali de prenne la chaise politique pour prendre le pouvoir. Nous n'avons jamais été au pouvoir avec vous. J'ai toujours regretté ici que le Tekeluka m'appelle comme ancien ministre. Mais je ne regrette pas aujourd'hui qu'il m'appelle comme ancien ministre parce qu'en tant qu'ancien ministre, nous avons, dans cette période, préparé le lit. Les forces armées ont sécurisé les élections
de 2016.
Les forces armées ont défilé devant la communauté internationale pour installer le nouveau président. Donc on a préparé le lit. On a laissé pour que le ministre Balalou vienne s'installer. Mais curieusement, on a plutôt l'impression qu'ils ont enlevé le matelas du lit pour mettre sur terre. Mais je voudrais revenir sur la question que vous me posez, mon cher frère. Je dis, je ne reconnais pas le ministre Balalou. Il y a eu un crime à Dicky. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le ministre Balalou peut nous dire que la République centrafricaine est sécurisée? Même les gens qui sont venus des élections se sont canardés à Libye, à quelques kilomètres de Damara. Usage exécuté d'armes de guerre par un militaire qui était allé pour protéger les élections. Au niveau de Bangui, monsieur le ministre, nous avons des braquages tous les jours. Et la dernière en date, c'est ce jeune homme au plus de 15. Donc pour s'attaquer à lui, on a bouclé les portes des voisins, on a cassé au PK16. On l'a sorti, c'est hier. C'est pratiquement hier, monsieur le ministre. Et nous, quand on dit que nous demandons au gouvernement de faire des efforts pour sécuriser sa population, vous dites que nous sommes CPC. Et puis, en plus, monsieur le ministre, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, regardons-nous les yeux dans les yeux. Nous sommes le pays le plus militarisé aujourd'hui au monde. Quand on voit notre population de 5 millions, quand on sent que nous avons plus de 12 000 hommes armés de la MINUSCA, quand on sait que nous avons plus de 2 000 forces de Wagner qui sont sur notre territoire, quand on voit qu'on a plus de 2 000 forces rwandaises qui sont sur notre territoire, quand on voit que nous avons nos gendarmes, nous avons nos policiers, nous avons nos eaux et forêts, nous avons nos douaniers sur le territoire national, et que dans la capitale d'un tel pays, où on ne peut pas passer deux minutes sans voir passer un véhicule militaire avec une arme lourde circuler au sein de la population, que nous avons des braquages tous les jours, vous dites que si nous demandons au gouvernement de changer, c'est parce que nous sommes CPC. Attends, monsieur le ministre.
Vous avez terminé. Je reprends la parole au ministre Bindoumi pour lui rappeler quelque chose. C'est pas parce que pendant la transition, à un moment donné, il a exercé la haute fonction, et on connaît le contexte à l'époque, qu'aujourd'hui, il ne peut pas dire certaines choses comme il avait mieux fait, il a bien fait, et qu'aujourd'hui, nous sommes incapables de faire les choses mieux que lui. Il se trompe. Je crois que le problème de sécurité, c'est une question majeure. Le gouvernement s'y attelle. Vous savez, on ne peut pas faire le développement sans sécurité, vous le savez bien. Le braquage dont vous parlez, le braquage a lieu d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on a le braquage dont vous parlez. Et quand vous essayez de peindre toujours en noir, sans être capable, honnête, de montrer les efforts qui sont faits, c'est ça que je vous le reproche. De tout ce que vous dites, vous ne reconnaissez pas les efforts qui sont faits dans le domaine sécuritaire. C'est quand même regrettable.
Mais sur le plan national, s'il vous plaît, avec ces braquages, est-ce que le regain ces derniers temps, c'est pas quand même constant?
Écoutez, monsieur Armando, je vous le dis, nous avons un plan de sécurisation. Vous savez bien, quand on parle de braqueurs, c'est des voyous. Vous savez combien sont arrêtés?
Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment mettre fin à cette situation?
Le gouvernement travaille sur le terrain, la sécurité. Les gens travaillent jour et nuit. Nos braves soldats, policiers, gendarmes, ils travaillent. Mais c'est pas ça qui va enrayer définitivement cet acte crapuleux. Nous allons continuer à le faire. Il faut pas donner l'impression que nous ne faisons rien. Ce n'est pas normal. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître les efforts qui sont faits dans ce pays. Depuis 2016, on avait combien de policiers, comme il le dit? Il dit le pays le plus militarisé, 6 millions d'habitants, est le plus militarisé, avec le chiffre qu'il a donné. C'est pas sérieux. Il faut reconnaître les efforts qui sont faits. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons encore du chemin. Et la sécurité, c'est une question qui concerne tous les Centrafricains. D'autres créent les conditions de l'insécurité. D'autres encouragent l'insécurité pour des objectifs inavoués. Mais nous continuerons. Le gouvernement continuera à travailler.
Vous voulez répondre tout à l'heure, je vous en prie, comme ça, vous continuez sur votre. Reprenez, M. Bindoumi, sur cette question de braquage à Bangui, avant de débriefer d'abord la tenue du vote référendaire de dimanche dernier.
Alors, moi, je voudrais calmer le ministre pour dire qu'au niveau de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, nous ne faisons pas des incantations. C'est-à-dire que le pays a fait. Nous ne faisons pas les incantations. Mais si aujourd'hui nous appelons le gouvernement à faire plus d'efforts, c'est que nous avons des indicateurs. Dans un mois à Bangui, nous avons eu combien de braquages avec mort d'hommes? Dans un mois en République centrafricaine, nous avons eu combien d'agressions avec mort d'hommes? Pourquoi est-ce que, alors que nous étions dans une situation prévisible, on a enregistré 13 morts dans un village à quelques 25 kilomètres de l'endroit où sont postés nos militaires? Ça, ce sont des indicateurs de notre côté. Et lorsque nous voyons que ces indicateurs-là signalent rouge, nous disons, monsieur le gouvernement, attention, les indicateurs de votre politique sécuritaire sont au rouge. Nous vous demandons de faire des efforts pour sortir de cet état. Alors, vous ne pensez pas que nous allons venir trouver un membre du gouvernement et faire des incantations pour dire on a formé 300 policiers, on a formé 300 gendarmes, on a envoyé tant. Nous, nos indicateurs, c'est pas ça. Nos indicateurs, c'est de dire qu'est-ce que le peuple centrafricain a récolté du point de vue des mécanismes de sécurité que le gouvernement a mis en place. Et quand nous nous rendons compte qu'on n'a pas obtenu les résultats que nous, on attend, on dit au gouvernement, attention, du point de vue de la sécurité de nos populations, il y a un problème.
30 secondes de plus. 30 secondes, vous reprenez 30 secondes comme ça, on complète pour aborder l'autre sujet.
Le ministre Boudoubi oublie que le processus sécuritaire dans notre pays était long chemin. Il sait très bien que dans ce... Il a cité tout à l'heure le nombre de militaires et autres. Il n'a pas donné les informations sur le nombre des ennemis de la paix. Hein? Ces ennemis de la paix qui sont un peu partout, qui créent de la misère à la population, ils n'osent pas le dire, ils n'en parlent pas. Nous, c'est un processus. Nous travaillons dans le cadre de ce processus-là. C'est un long chemin. Les questions de sécurité, il faut le reconnaître. Nous y travaillons avec force et détermination. Et ce que je tiens à vous le dire, je le répète encore, je vous demande pas de jeter la fleur au gouvernement, c'est pas ça. Je vous demande de reconnaître les efforts qui sont faits parce que vous ne le dites pas.
Vous voulez faire montrer.
Vous voulez. Non, mais son travail, c'est de voir.
C'est de voir s'il y a le mal. Par exemple, on a tué avant-hier sur la route de Boilly à 16 km.
S'il vous plaît.
Et ça, pour le
droit de l'homme. Son travail, c'est de voir là où il n'y a que des problèmes. C'est un problème. C'est ça. Là où il n'y a que des problèmes. C'est ça. Son travail, c'est là où il y a des problèmes. Je ne pense pas. S'il vous plaît. Je vais terminer parce que je ne veux pas continuer à épiloguer longtemps. Je voudrais rassurer le ministre Binomi. Contrairement à ce qu'il dit, le gouvernement travaille pour restaurer la sécurité. C'est un processus, je le dis.
C'est un processus.
C'est pas pour rien que nous continuons à former, n'est-ce pas?
S'il vous plaît, oui. Complétez la seconde.
Moi, je disais que. Je disais, monsieur le ministre, je n'ai pas dit que le gouvernement ne fait pas. Je dis que, organisation de défense des droits de l'homme, nous avons des indicateurs pour nous permettre d'apprécier
le
contexte sécuritaire. Et nous avons nos éléments et nous donnons ça. Ce n'est pas parce que nous sommes contre vous, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas rassurés que vous avez recruté des militaires, que vous les avez formés, que vous les avez envoyés sur le terrain. Ce n'est pas dire que vous avez.
Est-ce que monsieur Balaloué est en train de demander la félicitation de la Ligue centrafricaine?
Il va demander la félicitation de la Ligue, que la Ligue lui dise que a ramené les Wagner qui vont dans sur notre territoire, qui en font à leur tête. La Ligue apprécie ça. Non, nous avons une position qui est différente. Quand on aussi on appelle des partenaires mais qui viennent pour nous secourir. Pour la sécurité de nos populations, mais qu'ils se transportent en minier, en fouilleur.
Oui, vous déplacez le débat. Je vous le dis, il faut que je vous le dise tout de suite. Il faut que je vous le dise. N'eût été les instructeurs que vous appelez Wagner, n'eût été nos alliés rwandais, je pense que ce pays-là.
Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat.
Ce que vous dites, vous l'assumez. Je pense que la stabilité de ce pays-là, il faut rendre hommage, n'est-ce pas? À ces instructeurs, il faut rendre hommage à nos alliés rwandais de tout le travail qu'ils font pour sécuriser ce pays.
M. parle de Wagner, vous parlez des instructeurs.
On ne parle pas de ce que vous dites. On ne parle pas de la même chose. Quand vous revenez, vous faites de l'amalgame.
On ne parle pas de la même chose.
On aborde quelques secondes.
Vous parlez des instructeurs. Moi, j'ai parlé de Wagner. Et les Wagner sont aujourd'hui sur le plan du monde reconnu comme des mercenaires.
Monsieur Bindoumé, je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur Balaloué. Comment appréciez-vous la tenue du scrutin référendaire du dimanche 30 juillet dernier?
Très bien. Je suis très fier de ce peuple. C'est une fierté légitime de voir pour la première fois dans l'histoire de ce pays. C'est pour cette raison que je félicite le président de la République, chef de l'État. Je félicite le gouvernement de la République. Je félicite toutes les institutions qui ont contribué efficacement à l'organisation de ce référendum. J'ai dit que c'est la première fois dans l'histoire de ce pays que nous finançons nous-mêmes les élections, que nous avons l'organisation référendaire, ce qu'on n'a jamais connu.
Et en 1995. Hein?
Et laissez-moi poursuivre.
Okay.
Vous avez vu, on a montré. Nos adversaires d'en face ont diffusé des images tronquées. Il n'y a pas de participation. Mais nous avons vu, les images parlent d'elle-même l'engouement populaire autour de cette question et la volonté du peuple à suivre cette vision du président de la République, cette nouvelle République qui est née. Et je suis ravi qu'au moins, sur les chiffres provisoires dont nous disposons, plus de 95% de la population a voté oui.
95,
hein? Plus de 95%. Ça, c'est le chiffre brut, puisque nous, 95,21% et le non, c'est 4,79%. C'est pour vous dire.
Ça, c'est le, pour vous dire. Le résultat, d'où vous tirez ce résultat?
Vous savez que nous.
De l'ANE?
Je vais vous dire, je vais vous le dire. C'est juste ces résultats bruts. Je vous le dis pourquoi. Parce que nous avons une structure à nous.
Okay? D'accord.
Hein? Nous récoltons aussi, nous compilons les résultats. D'accord? J'ai les résultats bruts.
Dans tout le pays.
Dans tout le pays. Donc, nous avons une tendance que je vous donne. Et qui je suis persuadé, avec le traitement de l'ANE et le redressement, on sera à peu près au même niveau. C'est pour vous dire que ceux qui ont prêché le malheur, ceux qui ont raconté partout que non, ne votez pas. Si vous votez, c'est pour que le président Touadéra s'éternise au pouvoir. La population leur a dit niet. Nous allons voter. Oui. Et l'expression populaire manifestée ici a jeté la confusion dans le camp de ceux qui ont pensé.
Dans le camp du BRDC, c'est ce que vous voulez dire? Vous voulez le nommer directement?
Mais dans le camp du BRDC, autres affiliés et soutiens.
Merci.
Hein, ils sont nombreux.
On va écouter M. Bindoumi parce que c'est pour voir comment est-ce que vous appréciez la tenue de la campagne référendaire.
Enfin, il dira la même chose que moi.
Oui, M. Bindoumi, vous avez une autre lecture parce que vous-même au sein de la Ligue centrafricaine de droits de l'homme, vous n'avez pas adhérer, hein, vous n'avez pas pu adhérer à ce processus jusqu'à présent, j'allais dire. Et quel est donc votre regard du vote du dimanche dernier?
Bon, Armando, vous savez, quand on vient à un débat comme ça, c'est tout à fait intéressant. Mais ce que nous devons faire, c'est de dire que nous sommes des Centrafricains, monsieur le ministre. Et les Centrafricains dont vous parlez sont sur tout le territoire national. La Ligue centrafricaine des droits de l'homme qui est en présence de votre présence se trouve dans les 20 préfectures de la République centrafricaine. 20 préfectures. Nous avons été, avec nos comités préfectoraux et sous-préfectoraux, nos comités d'arrondissement, nous avons vu les élections qui se sont passées en République centrafricaine. Nous avons participé à ça. Nous vous informons, par rapport aux chiffres que vous donnez, que les listes électorales que nous avons fait valider, qui étaient de anciennes élections 2021, nous n'avons pas fait de nouvelles listes, mais on pouvait espérer plus de 2 millions d'inscrits sur nos listes. Plus de 2 millions. C'est ça là qu'il faut rechercher. Et si vous sortez des résultats à 95,95%,
De oui.
Et que dans le total de l'expression des votes, vous avez 1 million de personnes qui ont voté. Ça veut dire que vous avez la différence de 4 millions de personnes qui n'ont rien dit. Donc il faut faire attention à sortir les chiffres. Et parce que moi j'ai le code électoral ici. Vous savez comment on calcule le référendum. Vous savez comment ça se fait. Moi j'ai les dispositions ici. Et donc je vous dis que nous, au départ, nous sommes honnêtes avec vous. Appelez-nous comme vous voulez. Nous sommes honnêtes avec vous. Depuis 2022, nous avons dit que le changement de la Constitution, d'abord, c'était la modification de la Constitution, ne prenait pas cette procédure-là. La Cour constitutionnelle nous a suivis. Nous avons dit que le changement de la Constitution n'était pas une bonne chose pour notre pays.
C'est notre débat.
Bon, c'est le débat qui nous amène aux élections. Nous n'avons pas été écoutés. Le comité qui a été mis en place, jusqu'aujourd'hui, société civile, Ligue centrafricaine de l'homme, nous ne connaissons pas les membres. Et le texte est sorti le 10, quelques jours avant la campagne, 5 jours avant la campagne. C'est là qu'on a découvert ce texte-là, ce document qui est entre mes mains. Lorsque nous avons dit ouvertement, et dans une mission à la radio Centrafrique, que le texte avait des raisons de quiétude, nous avons pas écouté, au contraire. les informations qui sont sorties de ce
quelques secondes, je vous en prie.
Ouais, qui sont sorties de ce débat ont permis au directeur national de campagne de modifier un certain nombre d'articles. Mais sur le vote, monsieur le ministre, vous savez, il y a beaucoup de détails. Si vous voulez qu'on en parle.
Donnez les détails. Je suis prêt à vous répondre.
Je vous donne les détails. Le code électoral dit que le jour du vote, les militaires doivent rester dans leur caserne. Ils ne doivent pas sortir. Ils ne doivent pas sortir. Et même les militaires qui sont chargés de surveiller les bureaux de vote doivent se tenir loin du bureau de vote pour ne pas influencer les
électeurs. C'est ce qui s'est fait.
Et donc nous avons quand même pu décoller les hélicoptères, qui sont des avions de combat. Nous avons quand même pu décoller les avions de chasse, qui sont des...
Gagne du temps.
Bon, alors, maintenant, quand on nous dit que le vote s'est passé dans les meilleures conditions, nous avons des gens qui sont venus nous dire, on m'a donné 5000 francs lorsque j'ai caché mon nom que je leur ai donné. On m'a donné 5000 francs. Ça, c'est établi. Il y a des gens qui nous ont rapporté que dans des bureaux de vote, il n'y avait que le oui. Nous allons vous donner le numéro de bureau de vote si vous voulez. Mais sans le bulletin, non. Les gens ont dit, bon, ceux qui veulent voler le oui, là, nous, on se retire. Il y a eu des bureaux de vote où il n'y a pas eu d'enveloppe pour mettre les bulletins dedans. Il y a le code électoral qui dit que, sur plusieurs articles, qui dit que le vote doit être à bulletin unique. Première condition. Au référendum, le vote doit être à bulletin.
Et ça, c'est l'article 44.
Hein. Voilà. Il y a beaucoup d'articles comme ça, jusqu'à 100 et quelques. J'ai noté les articles ici. Mais nous avons voté avec deux bulletins. Et puis, les élections...
Vous chutez.
Indique que lorsqu'on a arrêté la campagne à minuit, le vendredi, avant le vote, on ne doit plus donner de signes de campagne. Vous avez vu que les deux bagarreurs du lycée Boganda étaient en blanc. Chemise blanche, comme vous avez vu les mises en marche. Les couleurs de oui. Je vous remercie.
Je suis ravi que M. Binoumi...
M. Binoumi a déjà relevé quelques manquements là. Est-ce que cela peut entacher, selon vous, la crédibilité de ce scrutin?
Je suis ravi que M. Binoumi ne remette pas en cause la crédibilité de ces élections. Moi, j'ai tous les éléments d'information parce que j'étais, dans le cadre de la direction nationale de campagne, le président de la commission électorale. J'ai suivi de bout en bout. C'est une première. J'ai dit, je félicite le peuple. Ce que M. Binoumi dit, vous pouvez avoir quelques cas. Ça existe dans toutes les élections.
Je vous remercie.
Permettez-moi signaler quelques cas.
Mais vous n'avez pas signalé les quelques cas.
Permettez-moi. C'est vous qui l'avez signalé. C'est vous qui l'avez vu. J'ai les rapports des observateurs.
Merci beaucoup.
J'ai les rapports des observateurs.
Internationaux?
Oui.
C'était des incantations qui sont allées faire.
Non, gagne du temps, s'il vous plaît. On va nous couper le temps de faire du fond.
Donc, je tiens à vous dire aujourd'hui, et je m'adresse à mes compatriotes, ceux qui ne pensent pas comme nous, c'est-à-dire ceux, mes contradicteurs, vous aussi, vous ne pensez pas comme moi, je tiens à vous dire que le peuple n'est plus dupe. Ces élections, c'est un signal fort.
Et pour vous, c'est une réussite.
C'est une réussite totale.
Merci
éclatante.
Beaucoup, monsieur.
Je tiens à le dire.
Merci beaucoup.
Et il faut revoir votre logiciel.
On va le couper. Vous dites que c'est une réussite. Et pour vous?
Non, je pense que les élections, d'abord, n'ont pas connu la participation attendue par le gouvernement. Et puis, il y a eu beaucoup de fraudes au cours de ces élections.
Faux.
Et que lorsque on va relever les indications
fraude
de
par
fraude.
Rapport à quoi?
Je vous en prie, on va pas le débat, malheureusement, le temps de fête de faux, on va le couper. Je vous remercie monsieur Joseph Bindoumi, je vous remercie aussi monsieur Maxime Balalou. Fin de ce débat politique, nous avons décrypté et analysé le vote pour le changement de la constitution représentative africaine. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission consacrée d'abord aussi aux actualités en représentative africaine et au Niger. Merci à nos invités, merci aussi à vous. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon week-end et surtout prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.